Luc Dupont. Luc Dupont, à qui on fait appel régulièrement pour nous parler du beau monde du marketing et des communications. Et Luc, tu le fais régulièrement. Tu nous as préparé une espèce de rétrospective des moments clés de l'année 2018 dans le merveilleux monde des communications et du marketing, justement. Salut!
Bonjour Bernard, ça va bien?
Très, très bien, très, très bien. Alors, tu nous ramènes donc au mois de janvier. Il y a des choses là-dedans qu'on a déjà oubliées, alors tu es là pour nous les rappeler.
Oui, ça va très vite. Ça nous rappelle qu'au pays de la communication, du marketing, évidemment, la technologie joue un rôle important, les médias sociaux également, puis bien sûr, toutes les nouvelles plateformes qui nous occupent et qui étaient à peu près inexistantes, ne serait-ce qu'il y a une dizaine d'années. Ça commence sur les chapeaux de roue en janvier avec Oprah, souviens-toi, qui à un moment donné, dans un discours au Golden Globe, nous annonce qu'elle réfléchit peut-être à l'idée éventuelle de peut-être devenir présidente des États-Unis. Évidemment, instantanément, ça va devenir une nouvelle mondiale. Bon, d'une part, parce que la réputation d'Oprah n'est plus à faire, mais en même temps, parce que souviens-toi que c'est Oprah qui, la première fois, avait interviewé Donald Trump dans une émission de télévision. Il lui avait posé la question, est-ce que vous avez déjà pensé à devenir président des...
Qu'est-ce qu'il avait répondu? Qu'est-ce qu'il avait répondu?
Il avait dit, oui, j'y songe, pas là, mais éventuellement, c'est quelque chose que je n'exclus pas. Et souviens-toi aussi qu'en tout début de campagne électorale aux États-Unis, au moment où on regardait Donald Trump en disant, il n'y a pas de danger, c'est un amuseur public, il risque pas de gagner l'élection, bien sûr, on connaît la suite de l'histoire, mais il avait dit, si j'avais comme colistière Oprah, je gagnerais. Alors, tu vois que...
Ce qui est probablement vrai. Mais moi, je vais te dire franchement, Oprah, candidate à la présidence, j'aurais bien aimé, moi. J'aurais bien aimé ça. Ah oui, ah oui. Je pense que ça aurait pu être très, très intéressant. Très intéressant.
Oui, assurément, fait beaucoup jaser. Puis ça s'inscrit, évidemment, dans cette espèce de nouvelle société hein, dans laquelle, l'espace d'un instant, quand tu es très connu, notoriété, visibilité, capital, image également, tu es capable de faire des choses... somme toute remarquable. L'autre événement, puis là, on est plutôt dans les technologies, on est toujours en janvier, et regarde encore une fois, Bernard, comment ça va vite. Amazon Go annonce, en fait, on nous annonce la création du premier magasin sans caisse enregistreuse.
Ah oui.
Ce qu'on appelle depuis l'épicerie intelligente. Je me souviens d'avoir jasé avec des gens à ce moment-là qui m'avaient dit, mais voyons, c'est impossible. Et vois-tu qu'en fin d'année, aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on apprenait il y a à peu près une semaine? Amazon a dit, savez-vous quoi? Non seulement on va en avoir un de ces magasins-là, mais on va probablement, dans les prochaines années, en ouvrir plus de 3000.
Ah oui.
On est passé de l'expérience bizarre à comment ils font ça, comment ils font pour savoir que j'ai pris un produit, je l'ai mis dans mon panier, à, ben oui, c'est tellement banal qu'on va en ouvrir quelque chose comme 3000, puis on va éventuellement en ouvrir aussi à l'extérieur des États-Unis. Alors, moi, je ne serais pas surpris éventuellement, par exemple, à l'aéroport, à Montréal, qu'on ait un Amazon Go. Je soupçonne que c'est un genre de commerce qui, dans ce type d'environnement-là, pourrait marcher pas mal fort.
Très bien, très bien. Bon, alors, janvier, on va les énumérer. Il y a eu le fondateur d'IKEA qui est décédé, il ne faut pas l'oublier. Les problèmes de Facebook également, janvier dernier. La nouvelle carte soleil au Québec.
Oui, et là aussi, tu vois, la carte soleil qui datait de 1970, les gens de Cossette à l'époque, La Rivière, M. La Rivière, que j'ai connu brièvement quand j'étais chez Cossette au début des années 90, qui avait eu l'idée à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre comme symbole? Ah, tiens, le soleil. Après tout, les Québécois ont un rapport très particulier avec la température, avec la chaleur aussi, avec le froid, par voie de conséquence. Le soleil, la santé... ça serait une méchante bonne idée sur le plan symbolique. Alors, on avait pris une photo en Abitibi pour la petite histoire, qui est devenue la fameuse photo en question qu'on avait sur notre carte soleil. Puis au nom de la sécurité, entre autres, pas exclusivement, mais au début de l'année, on a dit, savez-vous quoi, elle va ressembler un petit peu plus à votre permis de conduire éventuellement. Le soleil va être là, mais ça va prendre un petit peu plus d'imagination pour le voir. Puis évidemment, Facebook, ben là, au début janvier, tout le monde s'est plaint en disant, voyons, je suis capable de trouver mes amis, les gens que je veux voir, les gens qui me racontent des histoires. Puis j'ai le sentiment que la pub occupe de plus en plus d'espace. Alors ça, c'est la partie 1, je pense, de tous les problèmes de Facebook, parce que ça a perduré dans ce cas-ci jusqu'à la fin de l'année.
Oui, puis c'est pas fini. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. T'as à peu près une minute par mois à partir de février, donc les Jeux olympiques.
Février, les Jeux olympiques. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Et c'est l'effet probablement Netflix, je te dis pourquoi. Les codes d'écoute qui vont reculer de façon importante, spécialement le soir. On essaie de comprendre ça par la suite et on fait une petite étude. Et ce qu'on constate, c'est que si vous êtes abonné à Netflix, les probabilités que vous ayez passé un petit peu moins de temps à regarder les Jeux olympiques sont assez importantes. Alors là aussi, on fait pour la deuxième puis la troisième fois, j'aurais le goût de dire, le lien entre ce qu'on appelle maintenant l'effet Netflix, le fait d'être abonné à ce réseau-là, puis le fait de moins écouter ce que j'appellerais les médias traditionnels.
J'allais dire, exactement. Mars, nouveau logo pour Desjardins.
Oui, et ça fait énormément jaser. Puis, les gens moins familiers avec le monde du marketing vont dire, mais voyons, c'est un logo, c'est un dessin. De quoi vous parlez? Comment ça que les gens sont montés sur le grand chevaux comme ça, l'ont commenté à gauche, à droite? Et c'est probablement l'un des articles marketing au Québec les plus cliqués de l'année. Bien, ça nous rappelle que Desjardins, c'est pas juste une institution financière comme les autres. La preuve, quand ils changent leur dessin... Ben les gens disent, attends un petit peu, moi je l'aimais le dessin d'avant, j'aimais l'abeille, comment ça qu'elle a disparu? Et la réponse courte dans ce cas-ci, ben les nouvelles plateformes, vous regardez le logo sur un écran qui fait souvent quoi, 7-8 cm de large, un petit peu plus. Alors bien sûr, il faut qu'il soit extrêmement simple, minimaliste, et dans le cas de Desjardins, c'est probablement moi un des changements de logo les plus réussis, Bernard.
Ah oui, tu trouves?
Oui, et il n'a pas fait l'unanimité, évidemment, non seulement du côté du grand public, mais aussi du côté des graphistes hein, professionnels. Mais moi, je le trouve d'une extraordinaire simplicité. Et sur ce plan-là, c'est une très, très grande qualité. Je pense qu'on a gardé, au fond, ce qui faisait l'esprit de la marque, et ça fait très aussi contemporain pour Desjardins. Lacoste, en parlant de logo,
oui.
L'espace d'un instant aussi a lancé ses polos Lacoste sans logo. En fait, sans logo de Lacoste.
Sans le croco.
Oui, sans le croco. Et soudainement, bon, on avait tantôt un aigle, tantôt un iguane, tantôt un rhinocéros. Et c'était évidemment une campagne de pub, de la pub sociale, comme on l'appelle communément. L'espace d'un instant pour nous rappeler que plusieurs de ces espèces-là qui sont en voie de disparition. Il faut faire un effort particulier, bien sûr, pour sauver tout ça. La collection s'est envolée en à peu près de mémoire 2 à 3 jours.
Mais le croco est revenu.
Et le croco est revenu depuis, bien sûr.
Oui.
Et ce qui est merveilleux, c'est que probablement que les gens qui ont acheté ça ne l'ont pas encore porté. Hein. C'est une pièce de collection. Ils en ont fait, dans chacun des cas, là, quelques centaines. Avril, les problèmes de Facebook prise 2. Mais
oui.
Là, c'était l'épisode de données personnelles. Les gens ont réalisé soudainement que ce qu'ils écrivaient là-dessus, ce qu'ils racontaient là-dessus, tous les indices qu'ils pouvaient donner à leurs égards, tout ça finissait par être distribué.
Ah, ça a été très troublant. Et moi, j'en reste encore troublé aujourd'hui. Ça a changé ma perception des réseaux sociaux, cette histoire-là, moi.
Et ça a initié toute cette réflexion-là, absolument, Bernard, parce que même on a commencé à parler beaucoup de légiférer là-dessus. Aux États-Unis, on va le faire assurément en 2019. Ça sera sûrement un sujet là, qui va revenir bien récurrent parce que, et les démocrates, et les républicains sont d'accord pour revoir tout ça. Et généralement, quand les deux parties sont d'accord, il se passe des choses assez rapides.
On a réalisé, dans le fond, que tout ce qu'on mettait sur les réseaux sociaux, pour ne pas dire sur Internet, pouvait devenir d'abord un bien public et pouvait même être commercialisé par quelqu'un qui faisait de l'argent avec ces données personnelles-là. Là. C'est là qu'on a réalisé ça.
Et ça va très, très loin. C'est même ta stat en lien, par exemple, avec ton statut matrimonial. Es-tu marié? Es-tu pas marié? Es-tu avec quelqu'un? Mark Zuckerberg t'aurait probablement répondu. Il ne te l'aurait pas dit cette année, là, en avril, mais il te l'aurait probablement dit il y a 3 ou 4 ans dans un discours célèbre. Il avait dit, je vous ai demandé quel âge vous aviez, je vous ai demandé votre date de naissance, je vous ai demandé si vous aviez un copain, je vous ai demandé le nom de ce copain-là, vous m'avez toujours répondu. Alors évidemment, là, ce qu'on a appris, moi, je peux pas te dire personnellement que c'est quelque chose qui m'a étonné, mais ce que j'ai constaté, c'est que dans le grand public, c'est le moment, l'espèce d'éveil où on dit, attends un petit peu, donc chaque fois que je me promène là-dessus, je laisse des traces, je laisse des petits cailloux, je laisse des morceaux.
Et ils les vendent, et ils prennent cette info-là, puis ils la vendent, puis ils font du fric avec.
Exact.
Voilà. Alors, OK.
Puis, puisqu'on parle de Facebook, ça nous ramène à l'autre problème qui nous a animé toute l'année, c'est la crise des médias. Et en mai, ben, qu'est-ce qu'on apprend? Et là, c'est à la surprise, là aussi, à bien des égards, presque général. La presse qui graduellement avait dit, savez-vous quoi, on va déplacer beaucoup de contenu sur l'application, éventuellement la copie papier du dimanche va disparaître, éventuellement on pense peut-être à faire disparaître les copies papier sur semaine, puis là, oups, on a fait un pas supplémentaire, et c'est là aussi qu'on a commencé à, de façon massive, dire, il faut donner un coup de main aux médias, et puis depuis, ben, du côté fédéral, on a fait un chèque, une annonce très importante là-dessus.
De près de 600, dit, près de 600
oui,
millions, hein?
Millions, c'est
oui. Pas juste pour la presse, pour les médias écrits en général.
C'est ça, partout à travers le Canada. C'est là qu'on a appris que la presse deviendrait éventuellement une OSBL.
Voilà.
Et surprise générale. juin.
Oui.
Là, on est dans le sport, curieusement, en juin. Coupe du monde, les commanditaires se sont fait plus rares à cause des scandales liés à l'attribution des villes qui vont et des pays qui vont accueillir la Coupe du monde. Et c'est les Chinois qui ont remplacé ces commanditaires-là. En même temps, on a appris qu'en 2026, et le Canada, les États-Unis et le Mexique allaient accueillir la Coupe du monde. Mm. Et ce sera une première avec trois pays. Et je ne peux pas passer à côté des Knights de Vegas, de Las Vegas, qui, eux, ont participé à la finale de la Coupe Stanley. C'est quand même pas mal lors d'une première saison. Et là, la surprise, c'est qu'ils ont complètement redéfini la façon de faire du sport, de faire du sport spectacle.
Ah oui, du sport spectacle. C'est exactement l'expression. En particulier, les cérémonies d'avant-match.
Oui, et on était loin d'une autre époque pas si lointaine où l'événement de sport, c'était tantôt d'inviter quelqu'un à faire la chanson de départ, les hymnes nationaux, ou comme j'ai déjà vu aussi à Québec à une autre époque, inviter un chanteur français qui n'avait jamais assisté à un match de hockey de sa vie, et son réflexe au moment de faire la mise au jeu, c'était de lancer la rondelle au lieu de la laisser tomber. Alors, on est très, très, très loin de ça. Juillet,
oui.
Apple Store fête son 10e anniversaire. Il n'y a pas personne qui nous écoute qui n'est pas familier normalement avec ces petits carrés-là de couleurs. Et c'est l'entreprise qui, momentanément, la première est devenue, a dépassé le cap du trilliard de dollars. Ce qui n'est plus le cas au moment où on se parle là, avec les problèmes en bourse. Mais moi, c'était la première fois que je voyais le trilliard pour une entreprise. Puis c'était, de toute manière, effectivement, sur le plan comptable, puis sur le plan des entreprises, la première fois qu'on franchissait ce cap-là. Éventuellement, il y a Amazon et, de mémoire, Microsoft qui, très brièvement aussi, ont atteint ce record-là.
Donc, on parle de 1000 milliards en bourse. Hein? 1000 milliards.
C'est 1000 milliards. C'est évidemment colossal. Là. J'entendais quelqu'un qui nous expliquait ça à un moment donné en disant si on comptait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça, puis qu'on comptait, puis qu'on comptait, puis qu'on comptait, puis qu'on comptait, ça nous prendrait comme ça un temps absolument éternel. Puisqu'on parle de compter, Amazon a fait, à mon avis, le coup marketing, en fait, relations publiques plus précisément ici, de l'année, en annonçant son HQ2, hein, son siège social numéro 2. Et toute l'année, les villes se sont battues les unes avec les autres pour aller chercher ça. Et là, on a récemment, on a appris que c'était pas une ville qui allait le recevoir.
C'était deux villes.
Mais c'était deux. Et là, je pense...
Rappelle-nous lesquelles?
Il y a une ville pas très loin de Washington. Et puis, l'autre, c'est New York. Et en fait, en banlieue aussi de New York, je dois le préciser. Puis là, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va causer des problèmes importants de circulation, d'autant plus que Google a annoncé hier ou avant-hier qu'eux aussi allaient s'installer à New York. Alors là, il va y avoir un sérieux problème, mais l'un dans l'autre, on comprend que ces entreprises-là ont réalisé que New York, à bien des égards, est incontournable, spécialement quand on parle de marketing et de communication. Et Amazon nous a surpris deux fois plutôt qu'une, non seulement avec deux sièges sociaux numéro 2, donc est-ce que c'est le HQ1/2 ici, mais en annonçant qu'ils allaient réimprimer, alors tu te souviens des problèmes de Toys R Us cette année, spécialement aux États-Unis, ils ont dit, savez-vous quoi, nous, on va en réimprimer un catalogue papier pour les jouets. Ce qu'on découpait, toi puis moi, là, dans le consommateur, quand on était des petits bonhommes, là, je veux ça, puis je veux ceci. Bien là, eux, on dit, sais-tu, c'est à la mode de parler des nouvelles plateformes, mais oublions pas que les vieilles plateformes marchent encore. On va faire un catalogue papier, puis on va annoncer nos jouets là-dedans, puis on va probablement demander aux entreprises qui veulent annoncer leurs jouets là-dedans, de payer pour ça.
J'ai hâte de voir si ça va marcher, cette affaire-là. J'ai hâte de voir... Luc.
Oui, moi, je trouve ça original. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Puis tu imagines, évidemment, qu'ils ont identifié les gens qui avaient déjà acheté des jouets sur leur site. Hein. C'est ça l'avantage aussi. Tu parlais tantôt des petits bouts de papier, là, puis des cailloux qu'on laisse traîner. Bien, la beauté, c'est qu'Amazon, c'est pas mal de choses sur toi. Hein. Est-ce que tu as déjà regardé des jouets? Est-ce que ça t'intéresse? Comment t'en as regardé? Lesquels et tout ça? Donc, on est capable de faire des plateformes par la suite qui sont extraordinairement adaptées.
Il nous reste une minute, mon cher Luc.
Un sprint, donc Netflix en octobre qui dit, oups, on va avoir un petit peu plus de compétition du côté du streaming. Il hein. Y a Disney Plus, on le sait maintenant, qui va s'appeler Disney Plus, qui va être lancé. Mais il y a aussi Costco et Walmart qui ont annoncé qu'ils allaient faire dans le streaming. En novembre, le décès de Stan Lee, on en a parlé abondamment, toi et moi.
Rappelle-nous, Stan Lee, c'était?
Oui, Stan Lee est l'inventeur de bien des super-héros qui avait commencé à l'origine en effaçant le crayon de plomb dans les bulles des comic books et qui éventuellement a eu une promotion extraordinaire.
Et qui devient le créateur de Marvel, hein?
Oui, de Marvel, et c'est un personnage incontournable. Et si tu cherches le thème qui nous a rassemblés toute l'année durant, c'est assurément la crise des médias.
Mais là, est-ce que tu viens de dire que Costco et Walmart vont avoir une chaîne de produits, de séries de télé, de films, un peu comme Netflix?
Ils ont annoncé qu'ils étaient en train de réfléchir à ça. Maintenant, quelle forme ça va prendre, on ne le sait pas tout à fait. Mais mine de rien, là, sur à peu près en octobre, sur à peu près 2 semaines, il y a 6 entreprises qui ont annoncé qu'ils allaient se lancer dans le streaming. Puis les plus étonnantes, hein, reconnaissons, c'est assurément Costco et Walmart. Mais en y pensant bien, pourquoi ils ne vendraient pas, au fond, sur leur site Internet, ces séries-là ou ces contenus-là qu'on peut maintenant déjà acheter en magasin? Et quand on se met à y penser, ça fait beaucoup de sens. Alors, la révolution à cet égard-là est probablement là. Pourquoi laisser Apple TV et Netflix faire tout le travail quand on peut se joindre à la
partie? Quand on regarde, en tout cas, le succès qu'a rencontré Netflix et notamment la croissance de l'action de Netflix, là, je veux dire, on peut comprendre que d'autres compagnies souhaitent se lancer là-dedans. Luc Dupont, t'as fait le tour. T'as réussi.
Toujours un plaisir.
Encore une fois, toujours un plaisir. Absolument. Je te souhaite un joyeux Noël et puis on aura l'occasion de se reparler en 2019 pour s'en souhaiter une bonne.
Excellent. À toi aussi et à tous les auditeurs également.
Merci, Luc.
Merci.
Alors, je rappelle que Luc Dupont est professeur au département de communication de l'Université d'Ottawa. On s'arrête parce qu'on veut se garder du temps pour nous, pour entendre cette très, très belle histoire. Je dirais une histoire de Noël. Une belle histoire de Noël, une belle histoire d'amour dans un instant.